Merci, mesdames et messieurs, chers collègues, je suis très heureux d'intervenir. Le titre de cet exposé a été choisi par Olivier Beau et non par moi, mais finalement, j'ai trouvé que c'était un choix judicieux. Je vais vous donner une phrase, une formule qui, au fond, va gouverner l'ensemble de mon exposé. Le lieutenant-colonel Beltrame, victime du terrorisme, a eu une conduite héroïque. Mais dans la démocratie moderne qui est la nôtre, je dis bien moderne, pas la démocratie antique, dans la démocratie moderne qui est la nôtre, il n'est pas exemplaire. Voilà, cette différence entre l'héroïque et l'exemplaire, vous allez le voir, est l'un des aspects de mon exposé. Permettez aux philosophes de commencer par l'étonnement nécessaire selon Socrate, to taumazein, s'étonner. Je veux marquer un étonnement sur l'usage du mot, non pas exemplarité pour le moment, mais le mot exemplaire. Considérons dans le langage courant, dont le philosophe en général doit partir, considérons dans le langage courant deux expressions. Première expression, voici un exemplaire de. Deuxième expression, il est ou il a été exemplaire. Ainsi, le même terme en français peut servir à désigner la mise en série d'éléments qui sont identiques entre eux. Par exemple, comme dit le dictionnaire de l'Académie, on a tiré cet ouvrage à 2000 exemplaires. Ou bien, le même terme marquera la supériorité et l'exceptionnalité d'un être ou d'un acte. Il a eu une conduite exemplaire. Et ceci est renforcé encore par un ancien usage, aujourd'hui tombé en désuétude, et que nous trouvons par exemple dans Victor Hugo. Permettez-moi de vous lire cette citation dans Napoléon le Petit. L'homme porte en lui, pour ainsi dire, un exemplaire mystérieux du monde antérieur et ultérieur, du monde parfait, auquel il compare sans cesse et comme malgré lui, le monde imparfait. Vous voyez que là, dans cet usage désuet, l'exemplaire était en réalité le type, et même le type au sens platonicien de l'idée platonicienne. Victor Cousin, dont je ne citerai pas les textes, se sert souvent du terme de l'exemplaire pour dire l'idée platonicienne. Alors, à partir de ces usages, soit courants, soit savants, faut-il penser que l'exceptionnel, celui qui est vraiment exemplaire, donc, faut-il penser que l'exceptionnel peut servir à une conformité à, servir ou même à imaginer une conformité à. Alors, dans ce cas, ceux qui se conforment au type exemplaire ne sont pas exemplaires. Vous voyez, d'après les deux usages que j'ai distingués, ceux qui se conforment au type exemplaire, eux-mêmes, ne sont pas exemplaires. Ils sont des exemplaires, c'est-à-dire qu'ils sont des séries conformes. Mais maintenant, il faut passer à cette notion de conformité. Conforme à quoi? Sans doute à une norme. Vous avez beaucoup parlé, bien que je n'ai pu entendre que M. Éric Buge dans son magnifique exposé, vous avez beaucoup parlé déjà de la norme, bien sûr. Conformité à une norme ou bien, je dirais, à un type idéal. Celui qui est exemplaire dans sa conduite ou dans son être incarne la norme. Et là, nous touchons une notion qui va devenir importante. Comment incarner une norme? Alors, vous pouvez peut-être songer à la formule évangélique chez Matthieu, Saint Matthieu 5:48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et cette formule semble dire que chaque croyant dans le lot commun pourrait être exemplaire de vertu chrétienne. D'une part, cela paraît irréaliste, je me permets de le dire, ça peut même paraître choquant, car comment prétendre d'être parfait comme Dieu, comme notre Père céleste? D'ailleurs, je dis choquant parce que précisément le malin dans la Genèse cette fois, dit au premier homme, vous serez comme des dieux, mangez de ce fruit et vous serez comme des dieux, eritissicoudis, vous serez comme des dieux. Malheureusement, tout cela s'effondre, mesdames et messieurs, car le texte est mauvais, cette traduction est mauvaise. Il faut remonter, comme toujours, au texte grec, n'est-ce pas? Et si je traduis à peu près, en m'aidant d'ailleurs de l'excellent livre de Henri Pernaud, Les quatre évangiles, qui contient de nombreuses annotations philologiques, c'est le mot télos qui est employé. Et je traduis à peu près, ce n'est pas exactement comme ça que traduit Henri Pernaud, mais abrégeant, soyez accomplis dans votre fin, télos, comme votre Père céleste est accompli. Donc, plus que l'idée de perfection morale, il s'agit de celle d'une plénitude de générosité. Le contexte, je ne le développe pas, montre qu'il s'agit de la générosité envers les autres, bien sûr. Le bien est une plénitude du point de vue chrétien, et alors, bien sûr, cela dénote une perfection. Bon, laissons de côté la formule évangélique et passons à autre chose. Si l'on garde l'idée que être exemplaire, donc faire preuve d'exemplarité, n'est-ce pas? Si l'on garde l'idée qu'être exemplaire permet de rendre sensible, c'est-à-dire perceptible au sens, incarnation de nouveau, permet de rendre sensible une norme ou un idéal de l'esprit, on comprend alors que l'exemplarité, qui est le vrai sujet de ce colloque, est ce qui incite à imitation. Et c'est cette notion d'imitation qui est pour moi le nœud ou le cœur de mon exposé. Qu'est-ce qu'être exemplaire aujourd'hui, notamment en politique? Mais est-ce que je ne suis pas en train de confondre suivre la norme et imiter quelqu'un qui l'incarne? Suis-je en train de commettre une confusion? Autre question. La société actuelle, je n'entends pas les organismes dirigeants de la démocratie moderne et parlementaire. J'entends la société civile, celle qui, par exemple, va manifester demain dans un défilé de la liberté, par exemple, parmi bien d'autres choses. La société civile actuelle supporte-t-elle de promouvoir des normes, de reconnaître des normes, de préserver des normes? Ou bien cette société civile actuelle, notamment en France, mais peut-être au Canada et peut-être en Europe, est-elle déjà dans ce que Émile Durkheim appelait l'anomie? Jadis, dans un livre que j'avais intitulé « La liberté et la loi, les origines philosophiques du libéralisme », sous-titre, j'avais étudié les conditions de l'obligation envers la loi, c'est-à-dire l'obligation, c'est-à-dire le sentiment intérieur qui nous porte à reconnaître la loi et à nous assujettir à la loi. Je parle de la loi civile. Soit parce que, selon Montesquieu, vous le savez, la loi, c'est la raison humaine qui s'adresse à la raison humaine. Donc, je peux me reconnaître dans la loi. Soit parce que la loi du démos est supposée être ce à quoi j'ai concouru sans en être effectivement l'ouvrier ou l'auteur. Et là, il y a le problème de la majorité qui a déjà été évoqué. On nous a dit qu'à Athènes, c'était toujours finalement des décisions à l'unanimité. Soit c'est un problème très actuel, la critique de la représentation qui actuellement envahit et les forums et aussi les ouvrages d'ailleurs, les derniers ouvrages sur la représentation, critique radicale de la représentation et même refus de la représentation. Alors, je vous rappelle que malgré tout, aux sources de la démocratie libérale moderne, il y a John Locke. Et John Locke disait que l'homme est, comme Dieu, un maker des lois civiles. Vous savez que Locke distingue la loi d'opinion, la nature law qui est la loi de Dieu, et les lois civiles. L'homme est soumis à la nature law de Dieu, mais il est fabricant de lois civiles. Where there is no law, there is no freedom. Le célèbre axiome de John Locke, là où il n'y a pas de loi, il n'y a plus de liberté possible. Chose que beaucoup de gens aujourd'hui feraient bien de méditer. Et surtout, ce qui m'a toujours fasciné chez Locke, c'est un héritage chrétien chez lui, bien entendu, c'est qu'il dit que l'homme est fondamentalement capable of law, of laws, ou capable of a law, comme vous voulez. L'homme est un être non pas capable de Dieu, comme disaient les pères de l'Église, et comme dit encore Blaise Pascal, l'homme capable de Dieu, mais l'homme est capable de loi. Alors, il me semble que, en démocratie moderne, l'intensité de l'obligation envers les lois est un thermomètre de la vitalité démocratique ou de son affaissement ou de son travestissement. Car j'entends beaucoup dire autour de moi aujourd'hui que pour être libre, il ne faut pas de loi. Eh bien, si c'est cela la démocratie, telle que beaucoup de forums le disent aujourd'hui, je crois que nous avons rompu avec plusieurs siècles de philosophie. La démocratie, en tout cas, est une société qui sollicite l'imitation. Ce sera la première partie de mon exposé après cette introduction. Une société qui sollicite sans cesse l'imitation entre les gens. Et ma question, bien entendu, va être, est-ce que de ce fait, elle supporte l'exemplarité ? Alors là, il faut nous tourner vers Tocqueville, je crois. Et il nous faut distinguer entre guillemets, mon semblable, par la communauté éthique, comme dans le christianisme qui a fondé cette idée, ce langage de mon semblable, de la communauté des enfants de Dieu. Bon. Et distinguer mon semblable de façon éthique, de la communauté éthique, donc la dignité de mon semblable, la dignité de l'être humain. Le distinguer de mon semblable à moi, celui qui est semblable à moi, dont nous allons voir que c'est une relation de type spéculaire et imaginaire, et non pas une relation éthique. Alors, développons un petit peu chez Tocqueville. Première citation, pourquoi les grandes révolutions deviendront rares? Ce qui peut paraître étonnant sous la plume de Tocqueville. Citation, toutes les fois que les conditions sont égales, l'opinion générale pèse d'un poids immense sur l'esprit de chaque individu. Elle l'enveloppe, le dirige et l'opprime. Cela tient à la constitution même de la société, bien plus qu'à ses lois politiques. Est-ce que l'élan d'imitation serait un effet de cette opinion, un effet de ce que Tocqueville appelle aussi le public? Pour lui, la démocratie moderne, c'est le règne du public et c'est la religion de l'opinion publique. Ce sont ces termes, n'est-ce pas? Le règne du public. Et le règne donc de cette opinion générale. Or, l'auteur affirme aussi que les hommes des siècles aristocratiques, donc il s'agit de la noblesse en France d'Ancien Régime, n'est-ce pas, sont devant la réalité suivante. Dans ces siècles, je cite, la notion générale du semblable est obscure. Et on ne songe guère à s'y dévouer pour la cause de l'humanité. Mais on se sacrifie souvent à certains hommes. En cela, l'homme féodal, de ces siècles aristocratiques, il est désintéressé, même s'il sert sa classe sociale, mais il est désintéressé. Sa classe est d'ailleurs, dit Tocqueville, une sorte de petite patrie, plus visible et plus chère que la grande patrie. Ce féodal sert son seigneur, sert son supérieur. Et il le fait de façon désintéressée car il a le code de l'honneur. L'homme démocratique, lui, d'après Tocqueville, va élargir ses perspectives. Car, dit Tocqueville, les devoirs de chaque individu envers l'espèce humaine sont bien plus clairs. Mais le dévouement envers un homme devient plus rare. Le lien des affections humaines à la fois s'étend et se desserre. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Suite de l'analyse chez Tocqueville. Cette société démocratique a le culte de l'humanité avec un grand H. Elle pense l'universalité de l'homme par ses juristes, messieurs, dames, par ses juristes, par ses philosophes, par ses moralistes. Mais cette société, selon Tocqueville, ne rencontre pas l'incarnation du semblable. Car, d'après lui, nous devenons de plus en plus égaux et semblables, mais pas au sens du semblable éthique. Nous devenons de plus en plus égaux et semblables parce que nous nous imitons. Nous nous imitons dans la mode, nous nous imitons dans les modes de consommation, nous nous imitons dans les paroles, nous nous imitons dans le langage. Il suffit de voir des expressions comme, je dirais par exemple, le sujet dans les médias. On ne parle plus que du sujet, ce n'est pas le sujet, le sujet est celui-là. Le mot problématique, la problématique n'est plus une problématique, c'est que j'ai des problèmes. Ah oui, j'ai des problématiques, dit quelqu'un, etc., etc. Bon. Nous nous imitons sans cesse. Mais nous nous imitons sans cesse pourquoi ? Parce que la pression du collectif agit chez chacun d'entre nous de façon à la fois à préserver l'égalité entre nous, mais en même temps à essayer d'être soi-même malgré cette égalité des semblables. Autrement dit, comme dit Tocqueville, le lien s'élargit et il se desserre. Je cite Tocqueville encore une dernière fois. C'est pas exactement sa formule. C'est moi qui commande Tocqueville. Les hommes ne cessent de se rapprocher au sein même de leur séparation. Car l'égalité est ce qui rapproche les individus mais les éloigne les uns des autres. Ils sont de plus en plus semblables, c'est-à-dire ils s'imitent entre eux, mais ils ont l'aspiration à être indépendants. Telle est la contradiction de la démocratie moderne d'après Tocqueville, c'est que nous voulons être comme les autres, mais nous aspirons à être indépendants. C'est évidemment contradictoire, car comment voulez-vous être indépendant si vous essayez à chaque instant de coller au groupe, quel que soit ce groupe d'ailleurs, hein, petit groupe, moyen groupe, ou le public, le collectif, le peuple démocratique. Donc, Tocqueville nous conduit à distinguer entre deux imitations, celle qui serait guidée par l'exemplarité éthique et celle qui est mue par le désir d'être comme les autres, l'enfant qui veut être habillé comme ceux de sa classe, l'élève qui veut ne pas se différencier de ses camarades, la solidarité du groupe, etc., etc. Et vous savez que ça a des extensions multiples. Généralement, ce n'est pas la norme éthique qui parle ici, c'est-à-dire ce n'est pas la dignité de l'être humain, cette dignité que le christianisme et que le droit moderne actuel consacre et veut consacrer. Ce n'est pas la dignité de l'être humain qui parle ici, c'est la pression du collectif. Selon Tocqueville, ce qui se voit ici, c'est l'importance de ce qu'il appelle tantôt le public, tantôt l'opinion publique, tantôt la religion de l'opinion publique. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le lieutenant-colonel Beltrame est héroïque, mais il n'est pas exemplaire, en ce sens strict, dans la démocratie moderne contemporaine. Pourquoi ? Parce que, évidemment, le sacrifice de soi que le lieutenant-colonel Beltrame a accompli n'est pas l'exemplarité que l'on attend des citoyens aujourd'hui. D'ailleurs, le sacrifice de soi dans le patriotisme que l'on enseignait dans l'école de Jules Ferry, car Paul Bert, Jules Ferry, etc. disent l'école, c'est pour nous enseigner la patrie, et éventuellement le sacrifice de soi dans la patrie. L'élan de 1914, je l'écris en ce moment un peu partout, l'élan de 1914 s'explique par cette école qui a enseigné que la valeur suprême, c'est la patrie et le dévouement à la patrie. Je reviendrai d'ailleurs sur l'école dans ma conclusion. Alors, on peut dire avec Tocqueville que la société aristocratique reconnaît peut-être l'exemplarité, reconnaissait peut-être l'exemplarité. Mais finalement, en quel sens et sous quelles conditions? Alors, je trouve que l'expérience historique est complexe et même contradictoire. D'une part, là je reprends encore Tocqueville, je trouve que sa formule est extraordinaire, l'aristocratie entretient de belles illusions sur la nature humaine. C'est tout à fait remarquable. Cet auteur qui s'est tellement intéressé aux deux paradigmes, aristocratie et démocratie, nous dit « le discours de l'aristocratie, c'est une belle illusion ». Et il fallait de telles illusions sur la nature humaine. Quand il va en Angleterre dans les années 1835, il écrit à son épouse, il est au clair de lune dans un château féodal, et il écrit une lettre, il lui dit « l'aristocratie, tant de grandes époques, de grandes vertus et de grandes violences. » De grandes vertus avec un S et de grandes violences avec un S. Voilà. Tout est dans cette ambiguïté. L'aristocratie valorise la norme de liberté. Il faudrait dire d'indépendance, presque. Mais dans la suggestion, c'est la féodalité. Liberté dans la suggestion. Mais surtout, Montesquieu nous le rappelle, Tocqueville nous le rappelle, sous la catégorie de l'honneur. L'honneur dont Montesquieu montre que ce n'est pas une vertu morale étroite, comme on le disait tout à l'heure pour la vertu politique à Athènes, n'est-ce pas? L'honneur, pour Montesquieu, vous le savez, c'est dans l'un des régimes qu'il distingue, vous savez, c'est une vertu politique. L'honneur aristocratique est une vertu politique. Mais d'autre part, après avoir dit cela, je me tourne vers la Révolution française qui m'a occupé quelque temps. La Révolution française montre dès son commencement l'apparition de personnalités symboles, des hommes symboles, des femmes pas trop, mais des hommes symboles au sein de l'espace devenu, bon, pour aller vite, nous dirons, quasiment démocratique, l'espace de souveraineté de la nation. Danton est un homme symbole, la patrie en danger. Robespierre est un homme symbole, dans ce temps-là, sous la Constituante, l'incorruptible, c'est ce moment-là qu'il acquiert ce statut. Marat est un homme symbole, la vertu toujours en éveil sur le risque de corruption des gouvernants, etc. Et même, la Révolution, dans son accélération et sa radicalisation, je parle de 1793, bien sûr, l'an 2, Victor Hugo, tu m'entends, l'an 2 vante un héroïsme démocratique. Tout à l'heure, j'entendais parler d'un bureau d'exemplarité. J'avoue que cette expression m'a absolument séduit. C'est merveilleux. Un bureau d'exemplarité dans l'administration française. C'est extraordinaire. J'espère en être digne un jour. Mais je ne suis plus enseignant, je suis en semi-retraite. Bon, pardonnez à mon ironie, mais je veux dire que c'est très intéressant. Parce que la Révolution française a créé en 1793 les Annales de la Vertu. C'est Léonard Bourdon. Léonard Bourdon, à la Convention, a été le créateur à lancer les Annales de la Vertu. C'était des récits héroïques, et donc là, l'héroïque est exemplaire. Dans une situation révolutionnaire comme celle de l'an 2, il est intéressant de voir que l'héroïsme du lieutenant-colonel Beltrame, pardon, ou l'héroïsme du jeune Barat, puisqu'il s'agit de Barat, n'est-ce pas? L'héroïsme, Viala et Barat, l'héroïsme du jeune Barat qui crie vive la République et qui est assassiné aussitôt par les Chouans, hein, si je me souviens bien. Eh bien, cet héroïsme est exemplaire. Alors, je ne vous donne pas les textes, mais sans arrêt, ceux qui écrivent dans les Annales de la Vertu et Léonard Bourdon lui-même disent « voici un exemple à suivre, voici un exemple, voici un exemple ». Hein ? Le héros dans la période la deuxième période révolutionnaire, celle du jacobinisme triomphant et de la montagne, le héros est exemplaire, cette fois-ci. Alors, je vais passer à la partie suivante, c'est la finale pour moi. Je vais me demander s'il peut y avoir une exemplarité aristocratique pour la société démocratique moderne. Tocqueville a renoncé. Tocqueville a renoncé. Il est assez pessimiste. Je viens de publier dans la revue Commentaire un portrait de Tocqueville où j'insiste sur son côté quand même pessimiste. Tocqueville ne le pense pas. Il écrit à Royer-Collard « Ce qui me manque, c'est la grandeur ». Et Royer-Collard et lui entretiennent une longue correspondance sur les paysans qu'ils observent, chacun dans leur seigneurie, si j'ose dire. Enfin, lui, il est au département, il est à, Tocqueville est représentant local, n'est-ce pas? Excusez-moi, je perds mes mots. Donc, il me manque la grandeur. Et donc, ce qu'il propose dans « Démocratie en Amérique », c'est l'intérêt, bien entendu, vous le savez. La société démocratique moderne est une société d'égoïsme réciproque où chacun cherche son intérêt, bien entendu, y compris en Amérique, en servant les autres. Être reconnu en Amérique, reconnu par le township, reconnu par la communauté locale, parce qu'on trouve son intérêt, bien entendu, à être honoré, à se dévouer et à s'enrichir dans certaines fonctions. Hein, voyez là-dessus, The Federalist Papers. Eh bien, Charles de Gaulle, qui à mon avis est très proche de Tocqueville, Charles de Gaulle, dans un texte fameux, dans les mémoires de guerre, tome 1, l'appel et chapitre la pente, Charles de Gaulle nous décrit, je crois, une exemplarité aristocratique. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. C'est la France qui est destinée à cette destinée éminente et exceptionnelle. Et alors, écoutez la phrase suivante. J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée, la France, pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. Le général de Gaulle considère que ce qui permet l'action telle qu'il la souhaite, c'est que la France traverse des malheurs exemplaires. Ça, c'est intéressant, car il part, lui, du négatif dont il dit qu'il est exemplaire. Et il continue en parlant de la médiocrité, n'est-ce pas? S'il advient que la médiocrité marque pourtant ses faits et gestes, j'en éprouve la sensation d'une absurde anomalie imputable aux fautes des Français et non au génie de la patrie. Bon, je saute des phrases. Seules de vastes entreprises, nous approchons de l'exemplarité, attention, seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même. Et oui, les éternels Gaulois, car ce n'est pas le président Macron qui a inventé la querelle des Gaulois, c'est dans les textes du général de Gaulle. C'est lui qui a parlé de l'éternelle querelle des Gaulois. Mais il faut avoir un peu de culture pour le savoir. Je m'adresse à un public cultivé, vous le saviez. Mais les journalistes, souvent, n'ont pas cette culture. Bon. Alors, que seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion, etc., etc., que notre pays, tel qu'il est, parmi les autres, tels qu'ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Viser haut et se tenir droit. Évidemment, ce serait l'incarnation de l'exemplarité. Et arrive donc la phrase sur laquelle je termine. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur. Il me semble que le général de Gaulle, ici, vise une exemplarité aristocratique au sein de la société démocratique moderne. C'est possible si nous le voulons. Voilà au fond son idée, mais nous le voulons parce que c'est la destinée. Il y a l'histoire. L'histoire de la France montre qu'elle a traversé des malheurs exemplaires, mais qu'elle sait, dans les grands périls, eh bien, viser haut et se tenir droit. Il me semble que ce texte gaullien et tocquevillien, consciemment ou non, et je présuppose que c'est consciemment. Mesdames et messieurs, je vais conclure sur deux points. Premier point, je dirais que l'exemplarité politique suppose à la fois une codification, et vous êtes expert en la matière, beaucoup plus que moi, et une incarnation. Codification, incarnation. L'un sans l'autre conduit soit à la stérilité, c'est-à-dire quand la codification ne s'incarne plus, quand l'imitation démocratique horizontale supprime tout idéal, quand il n'y a plus de hauteur, pour ne pas dire de grandeur, alors la codification est vaine. On fait des lois, on fait des lois, on fait des lois, mais la codification est vaine. Inversement, si nous avons une incarnation sans la codification, alors c'est l'impuissance ou bien ce sont des dérives autocratiques. Car l'autocrate, c'est quelqu'un qui incarne quelque chose. J'étudie en ce moment le fascisme à l'époque de Mussolini parce que mon prochain ouvrage portera sans doute sur le citoyen et l'intérêt général. Et j'essaie de voir quelle était la norme dans l'ascension du fascisme sur la jeunesse italienne. Et l'autocrate, effectivement, c'est dit dans les textes. Les textes fascistes sont passionnants, absolument passionnants. Heureusement que je lis l'italien, bon. Les textes de l'autocrate, effectivement, il incarne sans codification. Et si vous pensez à la fameuse formule « Mon Führer, vous êtes la loi vivante, vous incarnez la loi », le fameux texte « Le lendemain de la nuit des longs couteaux », vous avez aussi l'incarnation. Bon, ce sont des extrêmes, hein, je reconnais. Mais en dehors des extrêmes, vous pouvez voir des petits autocrates où l'incarnation se passe de la codification. Vous savez, je vous ferai une comparaison avec Sigmund Freud. Ce n'est pas une explication. Hein. Je ne dis pas que la psychanalyse explique, mais la comparaison m'attire. Vous savez, Freud décrivait les foules qui mettent le chef, c'est-à-dire une personne extérieure, à la place de leur idéal du moi intérieur. Si vous connaissez un peu l'idéal du moi freudien, vous voyez que c'est la norme intériorisée. Eh bien, je ferai la comparaison, car ces foules mettent une image, une identification par l'image au chef, au lieu de la norme intériorisée. Je crois que pour aider notre jeunesse, nous avons à réfléchir là-dessus. Notre jeunesse actuelle, nous avons à réfléchir là-dessus. Et mon deuxième point, je dirais que concevoir l'exemplarité comme un trait aristocratique nourrit trop la nostalgie. Je ne suis pas partisan de la nostalgie. Je ne suis pas un nostalgique. Je ne dis pas que c'était mieux dans ma jeunesse. Je ne veux pas de cela, ça ne sert à rien. Et je voudrais plutôt penser l'exemplarité, concevoir l'exemplarité dans le modèle éducatif. Mais le problème est le suivant, c'est que si nous consultons les textes de ce qu'on appelle l'enseignement de la morale et de l'instruction civique, par exemple le BO de 2015 avec des révisions 2018 mais qui confirment ces instructions de 2015, on voit que cette instruction doit conduire, je résume, hein, là je suis très rapide, vers la responsabilité individuelle et vers la coopération. La morale enseignée est conçue comme une découverte de la liberté par le jeune enfant. Et donc, la responsabilité envers soi et envers les autres et la coopération. Mais ce que je constate tout de même, je ne peux pas développer ce point, c'est la crainte du classement à l'école, la crainte de la hiérarchie du mérite, la crainte de l'élite. Ce mot, qui a été prononcé tout à l'heure encore, mais qui aujourd'hui a beaucoup de mal à passer. L'élite, les grandes écoles, les grands corps de l'État, la haute administration, aujourd'hui, tout cela est très controversé. Or, je termine sur cette phrase, une culture de l'exemplarité suppose la recherche sincère et franche de l'élite pour une société donnée. Voilà, je vous remercie.